Bien, à ce niveau-là de ce cours Microsoft Virtual Academy, nous venons de voir un aspect théorique de l'Active Directory ainsi que les premiers pas de configuration de cet Active Directory une fois qu'il était installé. Par la suite, nous verrons au cours de deux modules, des deux modules qui suivent, l'exploitation et les bonnes pratiques ainsi que l'aspect site géographique et ce que l'on peut configurer de très intéressant au niveau de cet aspect géographique des sites et notamment du réseau qui se cache derrière. Donc allons-y pour l'exploitation de l'Active Directory. Vision de quelques outils d'exploitation et les bonnes pratiques à faire dans cet Active Directory. Donc un premier outil qu'on a vu déjà assez bien, l'utilisateur et ordinateur Active Directory, il est là pour on va dire pour récapituler. Un nouvel outil Windows 2012 serveur qui s'appelle le Centre d'administration Active Directory, dans lequel je vais pouvoir parler aussi de la corbeille. Voyons ça un petit peu. Donc, au niveau de mes outils, il existe maintenant cet outil-là, Centre d'administration Active Directory. On va voir que je peux y faire des choses que j'ai déjà faites, comme créer un nouvel outil. Utilisateur. Allons-y. Ici, je retrouve le nom de mon domaine, mon arborescence, MVA, utilisateur, et je peux par exemple, donc je peux retrouver les propriétés de mon utilisateur Bruno Dubois sous une forme différente que celle de l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Notamment, l'accès à l'adresse se fait directement ici, l'accès à ces à son adresse de messagerie, à ses numéros de téléphone se fait ici. Ce qui signifie que si vous avez l'intention de bien remplir vos informations dans l'Active Directory, vous pouvez le faire directement ici en créant un nouvel utilisateur. Donc cette fois, je vais l'appeler tout simplement User 1. Voilà. Son nom d'ouverture de session, celui qu'il utilisera, je rappelle, pour ouvrir une session réellement, s'il doit changer son mot de passe ou pas, et si j'ai envie, ben tiens, je vais rentrer son adresse. Admettons, son numéro de téléphone principal. Allons-y, ça y est, j'ai créé mon utilisateur. J'ai oublié de lui mettre son mot de passe, donc j'ai une petite flèche noire qui m'indique que le compte est désactivé. Allons-y, mettons son mot de passe. Cette fois, je vais le laisser. Je vais réactiver le compte. Donc, dans autres options, raté. Voilà. Bon, je vais le mettre aussi dans un groupe pendant que j'y suis, que je n'ai pas créé. Donc, on verra après. J'aurais pu créer un groupe. Donc, je vais créer un groupe. Que je vais appeler formateur par exemple. Et j'en reste là. Je vais mettre user1 dans ce fameux groupe. Voilà, c'est fait. Je vais vérifier par acquis de conscience. Mais normalement, c'est fait. Il est bien dans le groupe des formateurs. Le compte est toujours désactivé parce qu'il faut que je retrouve l'option que je ne trouve plus. Bien, donc je vais le faire dans l'autre interface, tout simplement, plutôt que de perdre du temps à chercher. Hop, le compte est désactivé. Ah ben non, c'est pas celui-là. Effectivement. Hop. Voilà, c'est ici. Hop, le compte est à nouveau activé. Puisqu'il a un mot de passe, c'est possible. Et je vais enchaîner sur une très bonne pratique. Un petit rafraîchissement me permet de voir que User1 est enfin effectif. Il est dans le groupe formateur sur la corbeille Active Directory que je vous conseille d'activer dès que possible, dès que vous en avez le loisir. Et c'est très extrêmement simple via cette interface. À quoi sert la corbeille? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, tout simplement, bon vieux cliquetoir, activer la configuration de la corbeille. Ceci est une opération irréversible. Pas grave, puisque c'est ce que je veux faire. Ça signifie tout simplement que, pour ceux qui connaissaient l'Active Directory avant la fonctionnalité de corbeille, si je supprime un utilisateur, depuis toujours dans l'Active Directory, c'est-à-dire depuis l'an 2000, l'utilisateur n'est pas vraiment supprimé. Il est encore récupérable pendant 120 jours. Cependant, si je le récupère avec des outils un peu complexes, cet utilisateur perdra pas mal d'informations, notamment son adresse que je viens de rentrer, son numéro de téléphone, mais plus important en termes de fonctionnalité, le fait qu'il appartient au groupe formateur. Heureusement, puisque j'ai activé la corbeille, je ne vais plus rien perdre sur cet utilisateur user 1. Et encore plus intéressant, j'ai un outil très simple pour le récupérer, ce qui n'était pas le cas avant Windows 2012. Il fallait faire ça en PowerShell essentiellement, ce qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas forcément très simple. Ici, normalement, je devrais trouver une petite rubrique concernant les utilisateurs, enfin les objets supprimés. Je ne l'ai pas, puisque comme je viens d'activer la corbeille, il faut relancer le centre d'administration. Je le relance, et cette fois, je me retrouve avec une rubrique Deleted Objects, dans laquelle il y a mon utilisateur. Et cette fois, je peux le restaurer à son point d'origine, ou bien à tout autre endroit de l'arborescence, si je veux le changer d'unité d'organisation. Bon, là, je vais me contenter de le restaurer à son emplacement d'origine. Et effectivement, il est de nouveau présent dans mon OU utilisateur et il n'a rien perdu de ses informations. J'ai toujours son adresse, son numéro de téléphone et il est toujours membre du groupe formateur. En fait, je n'ai strictement rien perdu. S'il n'avait pas eu la corbeille, ça n'aurait pas été le cas. Donc ça, c'est un point assez intéressant de l'Active Directory depuis Windows Server 2008, je vous le dis. Simplement, les outils graphiques arrivent avec Windows Server 2012. Autre outil intéressant d'exploitation dans notre Active Directory, on vient de le voir au chapitre précédent, la gestion des stratégies de groupe. Quelque chose qu'on verra au module 4, sites et services Active Directory, et bien entendu, il existe tout un tas de commandes concernant l'Active Directory. Une commande très intéressante, c'est DCDiag. Dès que vous avez un petit souci sur votre Active Directory, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, n'hésitez surtout pas. Tiens, oui, alors là, j'étais resté sur mon GPO fixe. N'hésitez surtout pas à lancer la commande DCDiag, qui fait un diagnostic de ce contrôleur de domaine. Si vous en avez plusieurs, faites-le sur chacun. Il vous fait tout un tas de tests et des diagnostics, et là, il me dit, ben, le test a réussi, etc., etc. Et quand ça se passe mal, il me dit, tiens, ça se passe mal, et il me donne une petite explication. Ici, pas de problème, pour les besoins de ces démonstrations, je ne suis pas connecté à Internet, donc je n'ai pas accès à des serveurs de temps sur Internet, et il me dit, cet ordinateur ne parvient pas à synchroniser son horloge avec un serveur de temps. Ce qui est très ennuyeux pour ce contrôleur de domaine, puisque comme c'est le premier que j'ai installé dans mon Active Directory, c'est lui qui impose l'heure à toute l'Active Directory. Donc il vaut mieux qu'il soit à l'heure. Si jamais il n'est pas à l'heure, tous les postes de l'Active Directory sont à la mauvaise heure de ce contrôleur de domaine. Et puis voilà, il insiste, hein, attention, le temps ça va pas, etc. Bon, en l'occurrence, il fait une relecture de tout l'observateur d'événements en ce qui concerne l'Active Directory et il me donne juste des avertissements qui, ici, je vous le garantis, ne sont pas bien graves. Le domaine étant tout neuf, tout va bien. Voilà pour cet outil important. Il existe tout un tas de commandes LED PowerShell qui vont me permettre de faire ce que je fais dans les outils précédents comme utilisateur et ordi. Tous les outils précédemment cités. Donc, pour donner un petit exemple, si vous avez des forts besoins de scripts, vous devez créer des centaines d'utilisateurs à la volée, admettons, vous avez intérêt à faire des scripts à partir de fichiers texte ou Excel, vous avez tout un outillage disponible à cet effet, si ça devait être le cas. Alors, je vais vous donner deux petits exemples. Par exemple, comment créer un nouveau groupe. Je vais créer un groupe qui s'appelle responsable à l'aide, cette fois d'une commande. d'une commande du système d'exploitation. Pour une fois, je vais relancer la bonne vieille invite de commande. Que vous avez dû remarquer, j'ai un petit peu abandonné pour le PowerShell. Voilà. Donc voilà une commande qui crée un groupe appelé responsable. Il me dit réussite, vérification. Si je regarde au niveau de MVA, j'ai bien créé un groupe responsable qui n'existait pas précédemment. Une autre commande un peu plus moderne, on va dire, mais qui est possible aussi avec les commandes de l'invite de commande. Cette fois, une commande let PowerShell. On peut en PowerShell, et donc je vais enchaîner. En PowerShell, j'ai créé un groupe responsable, je vais y mettre dedans l'utilisateur Benjamin. Voilà, donc ma commande se tape toute seule par magie. Et voilà, apparemment pas de message d'erreur, donc c'est que ça s'est bien passé. Vérification, dans le groupe responsable, il y a bel et bien l'utilisateur Benjamin. Donc voilà, vous avez toute une panoplie de commandes de l'invite de commande, ainsi que de commandes lettres, et n'oubliez pas d'essayer le jour où vous avez des problématiques. Dans les bonnes pratiques, mais là ça sort du cadre de ce cours MVA, vous pouvez évidemment mettre en place ce qu'on appelle une PKI, c'est-à-dire une autorité de certification, et ensuite, et même au préalable, faire une sauvegarde du certificat de l'agent de récupération FS. Le jour où vous aborderez les PKI, on vous parlera fortement de cette rubrique-là, la sauvegarde du certificat de l'agent de récupération FS, ainsi que la création d'un nouveau, qui vous permettra de récupérer tous les fichiers cryptés par un utilisateur qui a fait du chiffrement EFS. Maintenant, on revient un petit peu dans les groupes, et on va parler des bonnes pratiques par la suite par rapport à tous ces groupes. Tout à l'heure, j'ai créé un groupe dans le centre d'administration. Je ne me suis pas trop appesanti sur l'interface, j'ai juste mis le nom. Mais les groupes, c'est assez riche. En effet, cette fois, je vais le faire dans une interface plus simple, d'une certaine manière. Je vais aller dans l'interface des nouveaux groupes, et on voit que, outre le nom, ainsi que le nom pour les machines NT4, pour ceux à qui il en reste, on me parle de type et d'étendue. Alors on va un petit peu expliquer ces notions-là. Donc primo, un groupe a un type, il peut être de distribution de sécurité. Distribution, pour faire très simple, il s'agit en fait d'une liste de distributions qu'on peut retrouver dans un client de messagerie, donc ça sert uniquement à envoyer des emails. Cependant, on constate que dans un groupe de distribution, dans la diapositive, on nous dit qu'on peut mettre des utilisateurs tels que Benjamin, Bruno, User1, mais aussi des contacts, ainsi que d'autres groupes de distribution. Qu'est-ce donc que des contacts ? Dans l'Active Directory, vous n'êtes pas obligé de faire que des utilisateurs. Vous pouvez faire un contact. Hop, nouveau contact. Tel quel, c'est surtout de l'information. Hop, je cherche mes lettres. Donc c'est quelqu'un qui existe. Donc là, j'étais juste dans un assistant. Si je vais dans les propriétés plus complexes de mon contact, il y a beaucoup moins d'onglets que sur un utilisateur, mais notamment, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je peux mettre son adresse email. De cette manière, si ce contact se retrouve dans un groupe de distribution et que j'envoie un mail au groupe de distribution, l'utilisateur Gwenfèbre recevra bel et bien un email, ainsi que tous les membres du groupe. Voilà pour les groupes de distribution, c'est pour envoyer des emails. Les groupes de sécurité permettent aussi d'envoyer des emails. Si j'envoie un email à mon groupe formateur, pas de problème, tous les membres en recevront un, dans la mesure où j'ai bien renseigné l'adresse email de chaque utilisateur. Mais la valeur ajoutée, c'est que ça sert essentiellement, les groupes de sécurité, à paramétrer les droits d'accès aux ressources, par exemple les permissions NTFS dans le système de fichiers. À noter qu'on ne peut pas mettre dans un groupe de sécurité de groupes de distribution ou de contacts. Voilà pour les deux types de groupes, donc par la suite on s'intéressera quand même essentiellement aux groupes de sécurité. Maintenant, parlons des étendues. Pour faire très simple, l'étendue, c'est le synonyme de la visibilité. Souvenez-vous, dans le premier chapitre, on avait parlé de forêt et de plusieurs domaines, avec un petit exemple à 5 domaines. Si j'ai plusieurs domaines, bah, l'étendue, c'est où c'est qu'on voit le groupe. Pour faire très simple, j'ai un petit tableau récapitulatif sur, en fonction des étendues, la visibilité et que peut contenir ce fameux groupe. Donc, en gras, j'ai mis un petit peu les groupes, les bonnes pratiques que nous verrons par la suite, c'est-à-dire que grossièrement, dans un groupe global, on peut faire beaucoup de choses au niveau de son contenu. Ce qui est essentiellement utilisé, c'est d'y mettre des utilisateurs du même domaine. Dans un groupe de domaine local, ce qui est essentiellement utilisé, c'est d'y mettre des groupes globaux. Bien. La visibilité, ouais, c'est tous les domaines pour le global, le domaine auquel il appartient pour le local, donc c'est assez clair. Et l'universel, ben, c'est tous les deux. En fait, peut contenir presque tout et est visible, est visible partout. Les bonnes pratiques. Très important, maintenant qu'on a ces types de groupes, ces étendues, mais qu'en faire ? Ben, la grosse bonne pratique, c'est de dire systématiquement, un utilisateur, je le mets dans un groupe global, ce groupe global, je le mets dans un groupe de domaine local, et ensuite, je mets les permissions sur les ressources vis-à-vis du groupe de domaine local. Petite démonstration. Allons jusqu'au bout, les ressources, les droits. Donc j'ai déjà au moins un groupe, si ce n'est deux, puisque j'ai le groupe des formateurs par exemple, je vais même m'intéresser à celui-ci, qui est dans l'utilisateur, qui contient plusieurs utilisateurs. Donc j'ai déjà des utilisateurs qui sont mis dans un groupe global. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait rajouter Bruno et Benjamin, histoire que ce soit un peu plus riche. Voilà. J'ai plus qu'à créer mon groupe de domaine local. Je vais utiliser une nomenclature de nommage pour ne pas me perdre. DL pour domaine local. Formateur aussi, donc même terminologie. Raté, je l'ai fait global. C'est pas grave, je vais pouvoir le transformer en groupe de domaine local de la manière suivante. Ça y est, c'est réglé. Voilà. Et dedans, je vais y mettre mon groupe global formateur. Voilà, c'est terminé. Et donc, le but, c'est de mettre les droits vis-à-vis de ce groupe de domaine local. Donc, je vais créer un nouveau partage sur le serveur contrôleur de domaine. Cette fois, du point de vue d'un administrateur système, je vais dans partage avancé. Je dis je partage ce service. Au niveau du partage, les droits, je les mets assez laxistes. Tout le monde a tous les droits, puisqu'en réalité, les droits fins, je vais les gérer ici. Au niveau des ACL NTFS, j'ai plus qu'à rajouter mon groupe de domaine local et donner les droits, par exemple, à tous mes utilisateurs de DL formateur, leur donner des droits lecture-écriture, et c'est réglé. Donc voilà comment se pratique l'usage des groupes. Alors, pour certains qui regardent cette vidéo probablement, en fait, ils ont souvent une forêt à un seul domaine. Et ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout les groupes de domaines locaux, c'est-à-dire qu'ils mettent bel et bien les utilisateurs dans les groupes globaux et ils positionnent les droits d'accès des ressources directement vis-à-vis des groupes globaux et la notion de groupe de domaine local n'est pas utilisée. Je ne le recommande pas pour la raison suivante, c'est qu'à partir du moment où vous aurez un deuxième domaine, ce qui peut arriver très simplement à cause de fusion d'entreprise, de rachat d'entreprise, ce jour-là, dès que vous avez un deuxième domaine, il va falloir reprendre tout pour mettre en place des groupes de domaines locaux, histoire que vous puissiez vous assurer que vous pouvez mettre des droits vis-à-vis d'utilisateurs, finalement de groupes, qui sont dans deux domaines différents. Ce qui fait que ça vous fera un énorme travail. Alors que si vous l'aviez fait au fil de l'eau, dès le début, bah ça serait fait et et ce n'est pas non plus une grosse surcharge de créer des groupes de domaine local quand on n'a qu'un domaine, qui seront à l'identique du global. Mais le jour où il y a un deuxième domaine dans la forêt, bah ça simplifie fortement la mise en place des droits. De plus, il est dit en remarque que les groupes universels sont à éviter pour des raisons de performance. En effet, les groupes universels, c'est à utiliser quand on n'a vraiment pas d'autre choix. Ce sont des cas très particuliers. Et qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur les performances. Chaque ouverture de session, on calcule pour chaque utilisateur ce qu'on appelle le jeton. Le jeton, c'est la liste des groupes auxquels il appartient. Et s'il appartient à des groupes universels, c'est un petit peu plus long pour créer ce fameux jeton. Et donc, tous les matins, quand tout le monde arrive, un petit peu plus long fois N, ça finit par être long. Voilà ce qui va clôturer ce chapitre 3 sur l'exploitation et les bonnes pratiques de l'Active Directory. Le module 4, cette fois, donc, va s'intéresser à la gestion des réseaux d'agences, donc des sites distants.